Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Un cardinal qui parle sans détour. L'Église aurait détruit les preuves d'abus sexuels pour protéger des ecclésiastiques. Nous serons en ligne dans un instant de Rome. La crise au Venezuela. L'opposant Juan Guaido prétend qu'un premier camion d'aide humanitaire est entré sur le sol vénézuélien par la frontière brésilienne. La pression s'accentue sur le régime de Nicolas Maduro. La présidentielle au Nigeria avec pour une fois les clivages ethniques et confessionnels neutralisés par le profil des deux favoris, tous deux musulmans originaires du nord du pays, analyse du chercheur Vincent Iribarren. Puis à la fin de cette édition, la riposte des adversaires à Emmanuel Macron en campagne au Salon de l'Agriculture, à moins de 3 mois des élections européennes. À la tribune du sommet de l'Église catholique consacrée aux pratiques qui ont pu mener à perpétrer ou taire des abus sexuels sur mineurs, Reinhard Marx, président de la conférence épiscopale allemande, a livré une véritable charge contre le secret pontifical en mettant en cause l'administration de l'Église. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, en direct de Rome, Mathilde, le prélat, réputé pour son franc-parler, a révélé que des dossiers sur des ecclésiastiques, pourtant coupables, avaient été détruits.
Oui, effectivement, dans la galaxie vaticane, vous l'avez dit, le cardinal Marx est l'un des plus véhéments sur le dossier des abus sexuels. Il le prouve. Encore une fois, l'Église ne va pas assez vite, pense le président de la conférence des évêques allemands et manque clairement de transparence. Ce matin, il a accusé l'institution d'avoir détruit des documents essentiels. On écoute.
L'administration n'a pas contribué à accomplir la mission de l'Église, mais au contraire, elle l'a violée, discréditée et rendue impossible. Les dossiers qui auraient pu documenter ces actes terribles et indiquer le nom des responsables ont été détruits ou ils n'ont même pas été constitués. Au lieu des coupables, ce sont les victimes qui ont été réprimandées et on leur a imposé le silence.
De l'histoire ancienne, pas tant que ça, réagissent des victimes réunies pendant ce temps-là dans le centre de Rome pour leur grande marche de protestation. Elles dénoncent le réflexe de l'institution qui consiste à défendre le prêtre accusé et décrédibiliser la parole de la victime. Quand cette parole parvient à se faire entendre, les Africains racontent l'impossibilité d'évoquer les abus au sein de l'Église. Le chemin vers la tolérance zéro, on le comprend, passe par la transparence, argumente encore le cardinal allemand. L'opération vérité doit aller au bout. Il appelle à limiter le secret pontifical qui, dit-il, n'a aucune justification dans le cas des abus sexuels et à rendre publiques les procédures judiciaires, un autre sujet délicat sur lequel le pape va devoir trancher. Son discours est attendu demain matin, mais surtout les mesures concrètes qu'il a promis pour l'après-sommet.
Merci à vous, Mathilde Imberti, en direct de Rome. Caracas verrouille les ponts à la frontière avec la Colombie. Caracas a le doigt sur la gâchette à ses frontières avec le Brésil et la cinquantaine de pays qui soutiennent l'opposant. Juan Guaido, États-Unis en tête, accentue la pression sur le régime de Nicolas Maduro qui ne cesse de mobiliser les siens. Juan Guaido avait donné jusqu'à ce soir à son adversaire pour accepter de laisser entrer de l'aide humanitaire. Selon l'autoproclamé président par intérim, ce serait chose faite. Un premier camion refranchit la frontière brésilienne. À Cucuta, ville colombienne, les partisans de Juan Guaido s'activent pour se frayer un passage sur le pont qui fait frontière. Sur place, Benjamin Eli.
Alors pour l'instant, la foule reste bloquée à l'entrée du pont Tianditas, le pont frontière. Mais elle met la pression, elle chante, elle exulte. Là, il y a un camion grue qui est en train de passer devant la foule qui acclame le conducteur, camion qui devrait aider à bouger les citernes installées sur le pont Tianditas par le gouvernement de Nicolas Maduro. Ces citernes, ces remorques qui barrent la route à l'aide humanitaire. C'est comme il y a plus de 200 ans après la libération du Venezuela par Simon Bolivar, raconte cet homme qui a dormi sur place pour appuyer l'aide humanitaire. Et en 2019, dit-il, nous allons retrouver la liberté. La liberté du Venezuela entrera par ici, par l'état de Táchira, jusqu'à Caracas. Quelques militaires ont déjà déserté les rangs de l'armée vénézuélienne ce matin à la frontière. Si l'un d'entre eux fait un pas en avant, les autres vont suivre, veut croire ce Vénézuélien venu de San Cristobal. On est comme des fourmis, l'union fait la force. Le Venezuela sera libre, aujourd'hui même.
Reportage à Cucuta de Jérémy Thuil et Benjamin Illy. Dans le nord-est du Nigeria, des milices qui appuient les troupes gouvernementales ont repoussé ce matin un assaut de Boko Haram à la périphérie de la ville de Maïdougouri, assaut qui a commencé par une douzaine de tirs de roquettes. Pareils actes de guerre sont fréquents. Ils surlignent l'échec du président sortant, Mahamadou Bouhari, qui en 2015 avait promis d'éradiquer la secte islamiste. Un argument dont ne s'est pas privé son adversaire, Atiku Boubacar. Les deux hommes sont les favoris de l'élection présidentielle qui se déroule aujourd'hui, tous deux musulmans originaires du nord du pays, ce qui neutralise d'avance toute instrumentalisation ethnique et confessionnelle. C'est ce sur quoi insiste Vincent Iribaren, spécialiste de cette région de l'Afrique et professeur d'histoire au King's College de Londres.
Pour la première fois au Niger, on n'a pas un combat nord-sud ou un combat chrétien-musulman. Et ça, finalement, quelque part, c'est une bonne nouvelle que pour une fois, le débat électoral ne se concentre pas sur de fausses divisions communautaire ou religieuse. Et pour une fois, le débat en devient plus intéressant parce qu'il se concentre sur des questions sociales ou des questions économiques. Donc on se retrouve finalement avec une situation où le débat ne porte pas uniquement sur la sécurité, mais porte sur des questions sociales plus larges. Nous avons affaire à un débat qui est plus sain, mais le problème souvent est qu'au Nigeria, les partis politiques ne se différencient pas par les idées, mais se différencient par des réseaux de clientélisme qui sont différents. Finalement, ce qui sépare les candidats en termes de programme politique est assez minime. C'est ce que les 84 millions d'électeurs potentiels nigériens redoutent, c'est qu'en fait, quel que soit le vainqueur de l'élection aujourd'hui, c'est que rien ne change ou change petit à petit. Et c'est bien ça le problème principal de cette élection, c'est qu'on a deux candidats qui ne sont pas finalement si différents que cela et qui ne proposent pas des politiques qui changeraient radicalement toute la société du pays. Il existe des problèmes énormes en termes d'accès à l'éducation, en particulier dans le nord du pays, en particulier pour les femmes. Il existe aussi des problèmes d'accès aux services de santé et même d'accès à l'emploi en général. Donc ce sont des problèmes finalement d'emploi, de santé, d'éducation qui devraient primer, mais ce ne sera pas un mandat de 4 ans supplémentaires pour Mahamadou Bouhari ou un premier mandat de 4 ans pour Atiku Boubacar qui vont changer les choses.
Vincent Iribaren, spécialiste de cette région de l'Afrique, le Nigeria, et professeur d'histoire au King's College de Londres. En Pologne, les conservateurs nationalistes au pouvoir multiplient les promesses électorales à moins de 3 mois des élections européennes, là-bas suivies à l'automne par des législatives. Promesses généreuses, 9,5 milliards d'euros par an de dépenses sociales dégagées avant le scrutin européen, mais aussi des exonérations d'impôts pour tout salarié de moins de 26 ans et un 13e mois de retraite. Le chef de l'État français a lui aussi fait des promesses dans les allées du Salon de l'agriculture qu'il a inauguré ce matin. Emmanuel Macron s'est engagé à réformer la politique agricole commune et à défendre vraiment la profession d'agriculteur. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Mathieu.
David, sans surprise, le discours du président de la République en campagne a fait réagir ses adversaires.
Oui, pourtant dans son discours ce matin, Emmanuel Macron a voulu convaincre en appelant à réinventer la politique agricole commune, à mettre en avant la transition écologique dans le monde agricole et surtout aider les agriculteurs à vivre décemment leur travail.
Voilà donc ce qui doit nous guider. Une exigence, l'unité et une triple promesse. Protéger, transformer, anticiper. Tels sont les piliers de l'Europe agricole que nous voulons.
Si la déclaration du chef de l'État se voulait optimiste pour les agriculteurs, pour le député européen José Bové, le discours d'Emmanuel Macron est loin de refléter la réalité.
J'ai entendu un beau discours, plein de belles paroles, mais qui sont complètement en contradiction avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau européen. Les aides directes, c'est-à-dire les aides qui sont données aux agriculteurs, le premier pilier, ce sont les aides donc concrètes à l'hectare, eh bien vont diminuer en moyenne, si c'est dans le cadre du budget tel qu'il est prévu aujourd'hui, de 12%. Et les aides environnementales sont prévues de diminuer de 25%. Donc moi, il va falloir qu'on m'explique comment on peut faire mieux avec moins, de manière complètement invraisemblable.
Dans ce côté, la Confédération paysanne déplore un discours creux, plein de mots en l'air et sans réelle vision politique globale de la part du chef de l'État. C'est également ce que reproche Marine Le Pen à Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement national estime que le chef de l'État a enchaîné les généralités, les approximations et les mensonges éhontés. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il considère que le président a prononcé le discours le plus mensonger de son quinquennat. Il le fustige notamment sur l'absence de propositions concrètes pour aider les agriculteurs français.
Merci à vous, David Ravier. Des heures à Rennes, un face-à-face tendu à Bordeaux, cortège plus nourri que la semaine dernière à Paris, mais aussi à Clermont-Ferrand. La 15e mobilisation successive des Gilets jaunes a été plus suivie que celle de samedi dernier. Le temps de demain dimanche, temps beau sur l'ensemble du pays, de faibles gelées sont attendues du nord-est au centre, ailleurs les minimales seront comprises entre 2 et 5 degrés en général, jusqu'à 8 degrés sur la côte atlantique. Les maximales atteindront 13 à 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 20 degrés dans le sud. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto, à la technique Jean-Frédéric.